Radio Kapi.
Le journal Noéla Luzitu Kabambi à la présentation.
Nous devons bannir l'exposition d'un luxe insolent alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour lui apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer. Propos de la première ministre ce lundi aux membres du gouvernement qui participent à un séminaire depuis hier. Judith Souminois a aussi appelé les membres de son équipe à la bonne moralité. Pas de courant électrique depuis ce lundi sur toute l'étendue de la ville de Kalemie. La situation devra durer au moins 10 jours. Conséquence, dès ce lundi, la régie des eaux Kalemie ne peut desservir la ville en eau potable, son groupe électrogène étant aussi en panne. Les habitants de Kalemie utilisent donc l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. L'invité de ce journal, c'est Dr Médard Kabuyaya. Il est spécialiste en chirurgie des fentes labiales à l'hôpital Île Africa de Goma. Il va parler de la campagne d'opération gratuite des personnes vivant avec la malformation communément appelée bec de lièvre, campagne menée la semaine dernière à Kindu, au Maniema. Bonsoir à tous. Début hier dimanche à Kinshasa du séminaire du gouvernement. Il est à son deuxième jour, donc ce lundi. Nous devons bannir l'exposition d'un luxe insolent alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour lui apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer. Déclaration ce lundi de la première ministre. Judith Souminois s'adressait aux membres du gouvernement qui participent à ce séminaire. Dans son exposé sur l'implémentation du programme d'action du gouvernement 2024-2028, la chef de l'exécutif congolais a aussi appelé les membres de son équipe à la bonne moralité. Sifa Maguro.
Chacun sera jugé à l'une de ses compétences, de ses qualités professionnelles, mais aussi de sa bonne moralité. C'est cela la ligne directrice du gouvernement de la différence, avertit Judith Souminois. Il est donc temps, conseille-t-elle au ministre, de tourner les dos aux antivaleurs, au clientélisme, au tribalisme, à la corruption, au détournement des deniers publics. Il faut changer la donne. Chaque fois que la population entendra parler des milliards de francs congolais, ça sera parce que ces ressources auront été utilisées au profit des programmes et projets de développement en vue d'améliorer leur vécu quotidien, a ajouté Madame Souminois. Elle rappelle qu'un ministre n'est pas au-dessus de la loi, mais plutôt un exemple pour la société. L'exemplarité des responsables que nous sommes nous astreint à être les premiers à respecter nos textes légaux et réglementaires, notamment les codes de la route. Pour cela, je demande au vice-premier ministre de l'Intérieur, sans délai, de mettre strictement en application les textes qui réglementent l'usage des cortèges d'une part et d'autre part d'instruire la police par rapport à l'obligation pour tous du strict respect du code de la route, y compris pour les officiels, rappelle la Premier ministre.
Au sud Kivu, le nouveau gouverneur, lui, suspend les activités minières dans tous les sites miniers de la province. Jean-Jacques Pourroussi suspend également tous les chefs de division de la Direction provinciale de mobilisation des recettes, DPMR Sud Kivu. Toutes ces mesures ont pour objectif de combattre les fuites des capitaux et de canaliser les recettes publiques en vue de contribuer au décollage du développement de la province. Jean Kassami.
Les nouveaux gouverneurs s'engagent à combattre les antivaleurs qui saignent à blanc les caisses du trésor public. Il s'est saisi des éléments produits par la commission d'enquête instituée par l'Assemblée provinciale. Une commission qui est chargée d'enquêter sur la gouvernance de la province de 2019 à nos jours. Au regard du rapport produit à mi-parcours, il ressort que les activités minières exercées au site Kivu rapportent presque rien au trésor public, raison pour laquelle l'exécutif provincial décide de la suspension en attendant que les exploitants miniers trouvent intérêt d'entente avec le gouvernement. Le scénario est identique du côté de la Direction provinciale de mobilisation des recettes DPMR Sud Kivu. Les fonds perçus auprès des assujettis atterrissent dans les poches des particuliers. À ce rythme, le gouverneur de province trouve qu'il est difficile, voire impossible pour lui, de mobiliser mensuellement le montant de 15 millions de dollars qu'il avait annoncé lors de la présentation de son programme d'action devant les élus provinciaux. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Réagissant aux mesures prises par le gouverneur du Sud Kivu, le bureau de coordination de la société civile de cette province l'encourage dans la prise en compte des recommandations et des desiderata relevés par la société civile et aussi par l'Assemblée provinciale. C'est à travers une communication aux médias datée du 21 juillet que cette structure salue les mesures provisoires prises par le gouverneur de province du Sud Kivu pour montrer le début du changement dans sa gouvernance, notamment la contrepartie des taxes et la récupération des maisons de l'État spolié afin de punir tous ceux qui se sont impliqués dans les détournements des deniers publics. Maître Néné Bintou, présidente de la société civile du Sud Kivu, encourage donc son gouverneur de province à rester sur les mêmes lignes pour défendre l'intérêt général. Elle nous en dit plus dans cet extrait sélectionné par Rachel Kessembango.
Comme société civile, nous avons eu à travailler également avec ces députés-là pour leur fournir la matière en notre possession. Et donc, ce sont les résultats maintenant de ces enquêtes-là qui sont en train d'être visibles et que le gouverneur a transformé en mesures conservatoires. Donc, nous félicitons la prise en compte de toutes ces craintes-là formulées par la société civile et par les députés et par les gouverneurs des provinces pour stopper l'hémorragie de la spoliation des maisons de l'État dans notre province et même l'hémorragie du détournement des deniers publics. Donc le gouverneur n'est pas allé vite en besogne, à notre avis, parce qu'il a agi conformément aux demandes qui lui ont été formulées par les députés. Le député ayant constaté que vraiment la province est saignée à blanc par les détournements à travers les PPP et à travers la spoliation des maisons de l'État, ils lui ont demandé de prendre des mesures conservatoires, des mesures préventives visant à stopper l'hémorragie de la spoliation, l'hémorragie des détournements en attendant que le rapport final soit débattu en plénière.
Au Kasaï oriental, un seul projet sur les cinq financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI est exécuté par les entreprises qui ont gagné les marchés. C'est le gouverneur de province qui fait cette déclaration après sa visite effectuée le week-end dans les différents chantiers. Ces projets consistent en la construction d'une centrale photovoltaïque de 10 MW à Chipuka pour alimenter la ville de Mbujimayi en énergie électrique, la construction et l'équipement de deux complexes scolaires modernes en Mbujimayi, de deux hôpitaux généraux, des références modernes, des morgues et des banques de sang, le tout en moins d'une année. C'est dans le cadre du projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté ainsi que la réduction des inégalités. Jean-Paul Mbouéboa-Kapo prévoit une rencontre avec les responsables des entreprises de construction de toutes ces infrastructures. Il s'est exprimé au micro des journalistes de la cellule de communication du gouvernorat de province. Suivez.
Nous avons commencé par la centrale photovoltaïque de Chipuka. Pratiquement, ils ont fait aussi un travail qui avoisine vraiment plus de 50%. Et ils n'attendent maintenant que certains accessoires, par exemple les câbles électriques et certaines petites choses. Au moins de ce côté-là, les choses ont évolué un peu. Nous avons constaté qu'il y avait vol de panneaux dû à l'obscurité. Ça pouvait occasionner ce vol-là. Mais au moins, nous avons constaté qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui avance. Par rapport à Kalindamudishi, en tout cas, le travail n'évolue pas très bien. Le seul travail qui nous a plu, c'est celui réalisé par l'entreprise Sadi à l'hôpital de la Mouya, qui pratiquement a fait plus de 90% de travaux qui n'attend peut-être que le kit solaire tel qu'il nous a expliqué et aussi le matériel qu'il faut pour l'hôpital. À l'hôpital cancer de Saint-Jean-Baptiste, là c'est encore une déception. Nous avons d'abord trouvé que celui qui est chargé du bureau de contrôle qui nous a expliqué, les responsables n'étaient pas présents. Le directeur du fonds de promotion nous a expliqué qu'ils ont été payés il n'y a pas longtemps, mais les travaux sont pratiquement à l'arrêt. Nous allons faire une évaluation, nous allons inviter tous ceux qui exécutent les travaux et nous allons faire une réunion pour avoir une vue d'ensemble.
Au Congo central, pour prévenir les accidents et lutter aussi contre les embouteillages à l'entrée de la ville de Matadi, le maire de la ville porte une fois de plus à la connaissance de la population marchande de toute la ville de Matadi et particulièrement de celle du quartier Mvuandu qu'il est strictement interdit de vendre aux abords de la route où circulent des véhicules. Dans une interview accordée à Radio Okapi ce lundi, Dominique Nkodiambete a indiqué que la population marchande n'a aucune raison de continuer à envahir l'emprise car il existe existe de marchés officiels disséminés dans les trois communes que compte la ville de Matadi. Sur ce, le maire de Matadi invite toute cette population marchande à entrer à l'intérieur de ces marchés pour y prendre place par l'entremise des administrateurs de marché. Un contrôle rigoureux, annonce-t-il, sera organisé dans les tout prochains jours et des mesures contraignantes seront prises à l'endroit des récalcitrants. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambété, est dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Quand nous passons, nous les évacuons, mais après notre passage, c'est devenu comme un jet. Quand nous passons, ils quittent la voie publique ou la chaussée, et après notre passage, ils reviennent. Là, il y a un problème de suivi aussi au niveau des présidents des marchés, au niveau des communes, au niveau des services aussi qui doivent faire appliquer toutes ces mesures que nous prenons. Donc, pour ne pas brusquer les choses, une fois de plus, nous avons lancé les communiqués pour demander à tout le monde d'aller bonnement occuper les étalages au niveau des marchés à l'intérieur. Nous avons accordé un délai. Dépasser ce délai-là, nous allons encore revenir pour chasser cette fois-là tout le monde sur la voie, sur la chaussée. Celui qui va s'entêter, il ne s'apprendra qu'à lui-même. Voilà ce que nous avons pris comme mesure, madame.
La ville de Kalemie dans le Tanganyika est privée de courant électrique à partir de ce lundi. La situation pourrait durer 10 jours. Des groupes électrogènes alimentent en électricité certaines maisons de commerce depuis ce matin. De son côté, la régie des eaux Kalemie n'est pas en mesure pour le moment de desservir la population en eau potable. D'après le chef des centres, le groupe électrogène de la société qui doit faire fonctionner la station de pompage est en panne. Mais il rassure qu'il sera bientôt réparé. Conséquence, la population se rue vers le lac Tanganyika et la rivière Lukuga pour puiser de l'eau. Gilbert Omagala s'exprime au micro de Paul Amunanga.
Ce qu'on déplore est qu'on devrait quand même nous informer bien avant pour qu'on prenne des dispositions qui pouvaient permettre à la régie des eaux de desservir quand même la population de l'eau potable. Parce que nous avons un problème sérieux ici à Kalemie, c'est notre groupe électrogène. C'est un groupe électrogène qui date. Dernièrement, on a connu encore une panne au niveau des démarreurs. Ce sont des machines électroniques. On ne peut pas s'hasarder à toucher n'importe où et il fallait que les techniciens viennent de Lubumbashi et Kinshasa. Chose qui est déjà en train de se préparer pour qu'ils viennent. Mais brusquement, on nous dit que non, voilà, il y a coupure du courant. Et là, maintenant, la population aussi est vraiment sans eau. Et vous savez que faire 2 jours sans eau dans la ville de Kalemie, c'est vraiment pénible. C'est tout le monde qui va chercher à descendre au lac. Et quand on descend au lac, c'est vraiment l'insécurité sanitaire. La petite solution qu'on peut avoir, c'est de l'eau potable qui est dans les décanteurs, qu'on essaie de donner à la population qui se présente à l'usine avec des bidons. On peut leur servir de l'eau, mais c'est de l'eau qui ne prendra pas 2 jours.
Situation tendue durant toute la matinée de ce lundi dans le site de déplacés de Rusayo au nord du quartier Mugunga, territoire de Nyiragongo au nord Kivu. Et pour cause, le meurtre d'un jeune homme par un homme en tenue militaire des FRDC. Des centaines de personnes déplacées en colère s'en sont prises au bivouac des soldats FRDC construits dans le site de Rusayo. Le responsable du site de Rusayo plaide pour la sécurisation de tous ces sites des déplacés tout autour de la ville de Goma. Et c'est dans ce contexte de guerre que ce lundi 22 juillet, les journalistes de Goma ont célébré la Journée nationale de la liberté de la presse. L'accent est mis cette année au Nord Kivu à l'importance de l'accompagnement psychologique des journalistes en zone de conflit armé. L'Union nationale de la presse du Congo, organisatrice, déplore le travail difficile et très stressant de nombreux journalistes coincés dans la zone occupée par le M23. Bernard Danyangi.
Plusieurs chaînes de radio sont actuellement privées de toute liberté de leurs activités dans la zone occupée par les rebelles au sud de Lubero et en territoire de Rutshuru et Masisi. En plus de cela, la guerre du M23 a contraint de nombreux autres journalistes au déplacement, en ajoutant le stress du travail des journalistes, d'où la nécessité de réfléchir en cette journée au coût psychologique du journalisme en zone de conflit, dit le secrétaire provincial de l'UNPC. Jacques Vaheni.
Les différentes violences, les conflits récurrents font que le Nord Kivu soit un cas particulier et donc il ne faut pas que l'on pense qu'on est nécessairement en bonne santé. C'est cette voie que nous faisons passer aujourd'hui, des réflexions sur la santé mentale du journaliste.
C'est aussi l'occasion pour le directeur du cabinet du gouverneur militaire de compatir avec les journalistes Alban Zekabaya.
C'est le moment de compatir avec tous les acteurs de la presse qui ont perdu leurs outils de travail. D'autres sont devenus des déplacés. Et d'autres encore sont décédés. Plusieurs autres ont rejoint les terroristes du M23-RDF.
Le chef des bureaux de la MONUSCO Goma, Omar Aboud, lui, promet tout soutien de la mission aux journalistes du Nord Kivu, aussi longtemps qu'elle aura encore son mandat dans le pays. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps en Ituri, les rebelles des ADF qui fuient les opérations conjointes FRDC armée ougandaise dans le territoire d'Irumu progressent à l'intérieur du pays dans la forêt vers Mambasa. Un groupe de ces ADF a traversé vendredi la route nationale numéro 4 vers Lolwa, ce qui a provoqué le déplacement des populations en panique et la paralysie des activités agricoles. Les acteurs de la société civile demandent au gouvernement de revoir sa stratégie de combat pour stopper l'avancée de ces rebelles au cœur du pays. Depuis Bounia, Isaac Rimaud.
Selon les constats faits par des acteurs de la société civile locale, des rebelles ADF fuient la pression militaire dans la chefferie de Wallace et Vonkutu, dans les territoires d'Irumu, pour s'installer dans les territoires voisins de Mambasa. Vendredi, un groupe d'ADF a été aperçu vers 17h par la population en train de traverser la RN4 entre Lolo et Mungamba, ce qui a provoqué les déplacements des habitants dans certains villages dans la zone. Les activités agricoles tournent également au ralenti par peur de tomber dans l'embuscade de ces rebelles. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme indique que cette progression des ADF loin des frontières avec l'Ouganda vers l'intérieur du pays inquiète la population qui est en perpétuel déplacement. Elle demande au gouvernement de déployer l'armée pour contrecarrer ces groupes armés avant d'atteindre Mambasa et mettre tous les moyens en œuvre en vue de les démanteler. Christophe Munyandiru.
Qu'on puisse revoir les accords signés avec l'Ouganda par rapport à des opérations conjointes faire de ce UPDF, mais aussi qu'on puisse voir comment les stopper et réorganiser notre armée afin que notre armée puisse conquérir cette guerre et surtout une guerre qu'on nous impose de ces ADF.
Au rappel, des rebelles ADF à des bandades opèrent en petits groupes dans plusieurs entités dans les territoires du Rumu et de Mambasa. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, toujours porté disparu, l'ancien patron du commandement des opérations du théâtre national, a été enlevé le 13 juillet à son domicile de Ouagadougou par des hommes armés et cagoulés. Le nom du lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni rejoint la longue liste des personnalités civiles ou militaires enlevées à leur domicile.
L'invité.
Nous recevons comme invité dans ce journal Dr Médar Kabouyaya. Il est spécialiste en chirurgie des fentes labiales à l'hôpital Il Africa de Goma. Il va parler de la campagne d'opération gratuite des personnes vivant avec la malformation communément appelée bec de lièvre, campagne menée la semaine dernière à l'hôpital général de Kindu au Maniema. Dr Médar Kabouyaya s'entretient avec Florence Kizalunga.
Dr Kabouyaya Kakule, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Vous êtes spécialiste en chirurgie des fentes labiales, appelée communément bec de lièvre. Pouvez-vous nous dire d'abord c'est quoi bec de lièvre?
Merci pour la question. Nous allons dire à des termes simples que la fente labiale ou palatine, communément appelée bec de lièvre, c'est une maladie congénitale. Donc, l'enfant naît avec et il va naître avec une fissure au niveau de la lèvre supérieure qui peut se prolonger au niveau de l'alvéole et jusqu'au niveau du palais, le palais mou et le palais dur. C'est ce que nous allons appeler fente labio-alvéolo-palatine.
Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette malformation?
Actuellement, nous pouvons dire d'une façon globale, nous avons les facteurs de risque génétique qui prend à peu près 40% des causes et il y a aussi les facteurs de risque environnementaux qui prend les 60%.
Docteur, est-ce qu'il y a moyen d'éviter cette malformation dans un couple?
Le risque d'éviter cette malformation dans un couple, c'est lorsque vous savez que vous avez les mêmes parentés, il faut éviter de faire des mariages consanguins. Ou bien, si vous savez que dans telle famille, il y a un grand risque de la malformation, et dans votre famille, si le risque est élevé, alors il faut éviter de tels mariages. Alors à ce moment-là, on va diminuer la fréquence de l'apparition de la fente des causes héréditaires.
Docteur, les enfants qui vivent avec la malformation dans la communauté, ils ont quel danger, quelle perception que la communauté a envers ces enfants?
À la naissance, lorsque l'enfant a une fente labio à l'alvéolo-palatine, il va avoir un problème d'abord de prendre les mamelons de sa maman, ce qui va être à la base de la malnutrition chez cet enfant. Deuxième problème, ce sera le problème de la déglutition. Lorsqu'il tète, il y aura une quantité de lait qui va sortir à travers les narines et avec un grand risque de faire une fausse route. Troisième problème, c'est le problème maintenant quand la feuille est en train d'évoluer. Ce sera le problème d'infection ORL à cause des communications entre l'oreille moyenne et l'oropharynx. Ça, ce sont des infections les plus fréquentes. Maintenant, ça sera un problème de langage parce que au niveau du palais mou, il manque une partie qui va obstruer pour articuler certaines voyelles et consonnes. Et ce sont les grands problèmes de la fente.
Mais docteur, qu'est-ce qui fait à ce que quand vous êtes dans des campagnes d'opérations gratuites, il n'y a pas vraiment engouement de personnes souffrant de cette malformation qui viennent se présenter pour bénéficier des soins gratuits?
La question est très intéressante parce que l'engouement est bloqué par certains facteurs ou bien certaines barrières. La première barrière, c'est d'abord la barrière de la conception et de la croyance religieuse. Parce qu'il y a des croyances religieuses qui pensent que la malformation est secondaire à une malédiction, à une sorcellerie, et que la sorcellerie, on ne peut pas la soigner du point de vue moderne. C'est pourquoi il y a encore beaucoup de cas de fente labio palatine qui sont restés dans des villages. À part ça, il y a le problème de stigmatisation. Faire sortir un enfant, tout le monde va se moquer de cette famille-là, alors ça va pousser que la famille va continuer à garder l'enfant dans la communauté. Troisième problème, c'est le problème des finances. Probablement, ils pensent que ça va demander beaucoup d'argent pour être soigné. Et c'est à ce moment-là que les parents vont rester avec leurs enfants dans le village. Alors, pour résoudre ce problème des barrières, je pense qu'il faut commencer par une sensibilisation.
Justement, docteur, pour arriver à cette sensibilisation, qu'est-ce que vous recommandez?
La sensibilisation va commencer au niveau de notre ministère de la Santé publique. Au niveau national, on doit mettre un système qui va contrôler au niveau provinciaux, la sensibilisation, et au niveau des divisions provinciales, on doit contrôler la sensibilisation jusqu'au niveau des zones de santé et à partir des zones de santé jusqu'aux aires de santé.
Docteur Kabuya Yakakule Medar, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.